Comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous et je remercie votre pasteur de m'avoir invité et je vous remercie de l'accueil chaleureux que vous me réservez. C'est une joie et je me réjouis de passer ces moments à méditer avec vous la parole de Dieu. À la fin du chapitre 13 de sa première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit la chose suivante. « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. » Et je souhaite ce matin méditer avec vous sur cette réalité de la foi, l'espérance et l'amour, nous dit l'apôtre Paul. Et ce matin, nous allons méditer ensemble la réalité de la foi. Aujourd'hui, quand on dit « je crois », c'est qu'on ne sait pas ou qu'on n'est pas sûr. Une expression un peu populaire qui dit « ouais, c'est à l'Église qu'on croit ». Sous-entendu, ailleurs, dans les choses sérieuses, on ne croit pas, on sait, on est sûr. Et il y a d'un côté le scientifique, lui il sait, c'est quelqu'un de rationnel, c'est du solide, c'est du concret, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est une chose dont on peut débattre, argumenter et parvenir à une certaine vérité. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui croient. Et alors là on entre dans un domaine qui est beaucoup plus flou, beaucoup plus vaporeux, quelque chose d'assez subjectif, où finalement on arrive à la conclusion que chacun croit ce qu'il veut ou croit ce qu'il peut croire, et qu'il n'y a pas vraiment lieu de discuter des croyances parce qu'il n'y a pas de base rationnelle, il n'y a pas de dialogue possible au sujet des croyances. Voilà, ça c'est un petit peu le climat. Donc il y a d'un côté ceux qui savent, et de l'autre côté ceux qui croient. La foi ou la croyance, qui sont souvent confondues, sont à la limite acceptées quand ça débouche sur des engagements humanitaires ou philanthropiques, par exemple Mère Teresa ou l'abbé Pierre ou comme ça. Alors là, on admire la foi de ces gens, non pas pour ce qu'ils croient, mais pour le courage, l'abnégation, le sens du sacrifice dont ils font preuve. Donc ça, c'est une dimension de la foi qui est acceptée dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et une autre dimension de la foi ou de la croyance qui est acceptée aujourd'hui, c'est qu'il faut croire en soi. Ça, c'est très important, hein. Si vous allez à un entretien d'embauche ou comme ça, vous savez que vous devez croire en vous. C'est tout à fait important. Donc ça, c'est un autre aspect de croyance ou de foi qui est accepté dans notre monde d'aujourd'hui. Cette situation générale que je décris n'est pas sans conséquence sur les églises. On voit différentes adaptations de ce modèle général dans les églises. Il y a d'un côté certaines églises qui cultivent un côté hyper subjectif de la foi. La foi, c'est juste de l'expérience. La foi, c'est de l'émotion. La foi, c'est une chose dont on peut absolument pas parler. La foi est un grand saut dans le vide. Ferme les yeux, saute, tu verras, c'est génial. D'accord? Donc une approche complètement subjective et expérientielle de la réalité de la foi. Et puis inversement, il y a d'autres églises qui prennent le contre-pied, qui sont un petit peu agacées par ça et qui insistent énormément sur le caractère doctrinal de la foi. La foi, c'est croire ceci, A, B, C, D, et le mieux on arrive à formuler ce qu'on croit, eh bien le plus notre foi est développée. Donc on dévoile un pôle très doctrinal, très objectif de la foi. Et ce que je vais essayer de méditer avec vous ce matin, eh bien, c'est la conception, non pas moderne, non pas contemporaine, non pas ce qu'on voit aujourd'hui, mais biblique de la réalité de la foi. Et pour méditer cette réalité biblique de la foi, qui vous verrez est infiniment plus riche que ces visions partielles que je viens de développer brièvement, eh bien, nous allons lire ensemble dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Un célèbre passage que vous connaissez sans doute. Et nous allons pas lire tout le chapitre, même si au fait l'ensemble du chapitre mériterait d'être lu, mais ce serait peut-être un peu long. Donc je vous propose de lire avec moi Hébreux 11 et nous lirons les 19 premiers versets. Et si vous êtes des lecteurs attentifs, vous verrez qu'on est en plein dans la réalité biblique de la foi. Et rien qu'en lisant ce passage, vous verrez que c'est des versions rabougries, racornies de la foi que je vous ai présentée juste maintenant, eh bien, vole en éclats. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Par elle, il fut déclaré juste, Dieu lui-même rendant témoignage à ses offrandes. et par elle, quoique mort, il parle encore. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une pieuse crainte, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme et d'un homme déjà atteint par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait, lui qui avait reçu les promesses, et à qui il avait été dit « C'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom ». Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là un symbole. Je pourrais continuer encore dans la lecture, mais pour ce matin, je vous propose d'en rester ici. Le but d'ensemble de l'Épître aux Hébreux, c'est de convaincre des chrétiens fatigués, épuisés par les épreuves. Vous savez que la première église chrétienne a très rapidement été l'objet de persécutions assez fortes. Donc plusieurs personnes dans cette jeune église étaient fatiguées et ils hésitaient au fait à revenir en arrière. Ils hésitaient à faire un pas en arrière et à faire comme s'ils ne s'étaient jamais convertis, comme s'ils n'avaient jamais rencontré le Christ par grande lassitude spirituelle. Et le but d'ensemble de cet épître aux Hébreux, eh bien, c'est de les convaincre de ne pas faire ce pas en arrière, et de montrer qu'au fait, on ne peut pas revenir en arrière, ce n'est pas possible, et qu'au contraire, en tant que chrétien, même au travers de l'épreuve, il ne faut pas chercher à regarder en arrière, mais il faut regarder en avant à Jésus-Christ. Et ça, c'est le but général de l'ensemble de l'épître aux Hébreux, et le but plus particulier de ce chapitre que je viens de lire, ou de ce bout de chapitre, eh bien, c'est de montrer aux chrétiens de l'époque que ce ne sont pas les premiers une vie croyante et que ce sont par conséquent pas les premiers non plus à rencontrer des épreuves, à rencontrer des difficultés. Et au fait, cette longue liste de personnes, de héros de la foi qui nous sont présentés ici, est là au fait pour nous dire, voyez, vous n'êtes pas les premiers à avoir traversé une vie croyante, une vie de foi, une vie chrétienne. Et qu'ont fait les héros de la foi de l'époque? Eh bien, au lieu de revenir en arrière face aux épreuves, face à la difficulté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Par la foi, ils ont regardé en avant et ils ont saisi au fait les promesses que Dieu faisait. Nous voyons cette idée à la fin du chapitre 10 de Hébreux, juste avant le passage que je vous ai lu. « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. » Et là, vous avez le but général de ce passage. « Soyez comme ces héros de la foi. » Ne faites pas un pas en arrière pour vous perdre, mais regardez en avant et saisissez toutes les promesses de Dieu par la foi. Et en méditant ce chapitre, comme nous allons le faire ce matin, nous allons voir qu'au fait, la foi, dans le sens biblique, a trois dimensions. D'abord, la foi, c'est la connaissance, c'est une connaissance. Et ça, c'est ce qu'on verra au début. Ensuite, la foi, c'est de la confiance. Et ça, c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Et puis enfin, la 3, c'est un engagement, ou l'obéissance. Et donc, nous allons avancer en 3 temps, avec d'abord méditer ensemble qu'est-ce que la foi comme connaissance, ensuite, qu'est-ce que la foi comme confiance, et puis enfin, qu'est-ce que la foi comme obéissance. Nous commençons donc avec la foi comme connaissance. C'est la première étape. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, la foi comme connaissance, il faut juste qu'on fasse un tout petit détour pour réfléchir à comment l'être humain connaît. Comment l'être humain connaît d'une manière tout à fait générale. Alors, d'une première manière, on peut dire qu'en tant qu'être humain, on connaît par le biais de nos sens. Vous savez, on a 5 sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Et nos sens nous permettent de connaître le monde qui nous entoure. Voyez, vous avez votre cuisinière, vous avez allumé une plaque, vous mettez la main sur la plaque, eh bien, vos sens vont vous permettre de connaître le monde extérieur. C'est-à-dire que vous allez tout de suite réaliser que c'est très chaud. Et ça, c'est une forme de connaissance que vous allez acquérir. Toujours dans un registre culinaire, si vous êtes en train de faire cuire vos raviolis, et puis que vous devez vous absenter pendant un moment, et que tout d'un coup il y a une drôle d'odeur qui commence à se diffuser dans l'ensemble de la maison, eh bien votre odorat va vous permettre de connaître le monde extérieur. C'est-à-dire que vous allez savoir que vous êtes en train de brûler vos raviolis. Donc, au fait, cette connaissance par les sens, c'est vraiment une connaissance tout à fait fondamentale, tout à fait basique, qu'on trouve chez tous les êtres humains, petits et grands, hommes et femmes, gens cultivés, gens pas cultivés, etc. C'est vraiment un mode de connaissance très simple et très basique qu'on a tous et qui est complètement indispensable pour connaître la réalité. Ce matin, en me rasant, eh bien, mes sens me permettent de savoir si je suis en train de me raser correctement ou si je suis en train de me couper. D'accord ? Voilà, ça c'est le premier niveau, qui est très généralement partagé par tout le monde. Le deuxième niveau, c'est une connaissance plus intellectuelle. Si je vous demande maintenant à l'un d'entre vous d'aller me chercher une chaise qui se trouve à l'autre bout du bâtiment, même si les chaises ne ressemblent pas du tout à ces chaises que nous avons ici, vous allez tout à fait facilement revenir avec une chaise, même si elle est dans un abominable plastique rouge, vous viendrez avec la chaise. Et pourquoi ? Parce que vous serez allé là-bas, vous aurez vu un objet en plastique, couleur, peut-être touché, etc. Puis vous avez une connaissance de ce qu'est une chaise. Et ça, c'est une connaissance par l'intelligence. Et qui va vous permettre, même si vous n'avez jamais vu la chaise que je vous demande d'aller chercher, eh bien, vous saurez que c'est une chaise. Pourquoi ? Parce que dans votre vie, vous aurez déjà remarqué, vous aurez vu plusieurs chaises, vous aurez dès votre plus jeune âge appris ce que c'est qu'une chaise, à quoi ça sert, et donc si je vous demande d'aller chercher une chaise, vous viendrez sans aucun problème. Pourquoi ? Parce que vous avez une connaissance intellectuelle de ce qu'est une chaise, qui vous permet de voir l'objet rouge en plastique, non seulement en tant qu'objet rouge en plastique, mais en tant que chaise. Ça, c'est la connaissance intellectuelle. C'est ce qui fait, par exemple, la différence entre un spécialiste et un non-spécialiste dans tous les domaines de la vie. Vous voyez, si moi, je vais dans un atelier d'un ébéniste, alors, je vais voir et je vais toucher beaucoup de choses. Mais je ne vais pas voir et forcément toucher les mêmes choses que l'ébéniste. Pourquoi ? Parce que l'ébéniste, lui, il connaît les différents outils, il sait à quoi ils servent, il sait leur nom, il sait comment les utiliser, etc. Donc vous voyez, par nos sens, on va voir la même chose, mais on va pas tout à fait percevoir la même chose, parce que celui qui sait va mieux voir, va mieux comprendre, va mieux apprécier. Même chose si vous allez voir un match de hockey et que vous connaissez les règles du hockey sur glace, vous allez voir et entendre la même chose que votre ami avec qui vous êtes qui ne connaît pas du tout, mais au fait vous n'allez pas voir exactement la même chose. Parce qu'en connaissant les règles du jeu, vous allez comprendre pourquoi, par exemple, à un moment donné, tous les hockeyeurs doivent sortir d'une zone pour pouvoir rentrer. Et donc vous allez avoir une connaissance intellectuelle, les règles du jeu, qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Voilà, ça c'est le deuxième mode de connaissance par lequel l'être humain connaît. D'accord ? Par les sens. Et puis ensuite, à partir des données qu'on a, eh bien notre intelligence se met à fonctionner, et puis qui nous permet au fait de comprendre le monde dans lequel on vit, et de pas seulement se laisser imprégner de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, de ce qu'on sent, etc. Si vous allez dans la nature et que vous allez avec quelqu'un qui est un grand spécialiste en botanique, votre promenade va prendre une toute autre dimension que si vous vous promenez dans la nature tel le citadin qui connaît rien. parce que la personne qui a des connaissances en botanique va vous donner à regarder ce que vous devez voir, être attentif, et donc votre regard va être modifié. Vous faites par cette connaissance intellectuelle qu'aura acquise le spécialiste en botanique. Cette connaissance-là, ben, on en a tous des connaissances de type intellectuel, mais alors qui sont variables en fonction de nos spécialisations professionnelles, qui sont variables en fonction de notre culture générale, qui sont variables en fonction de notre âge. On a tous de la connaissance intellectuelle, mais qui peut varier en fonction de où, quand, dans quel contexte on vit. Et enfin, le troisième type de connaissance, et alors là qui est beaucoup plus spécifiquement chrétien, c'est ce qu'on appelle la connaissance par la foi. Et c'est ce dont on va parler maintenant, la connaissance par la foi. Et vous avez dans le premier verset de Hébreux 11, « Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et derrière démonstration, derrière assurance, il y a une idée de connaissance bien spécifique. Et nous allons à présent nous arrêter quelques instants là-dessus. En fait, notre intelligence nous permet de connaître des choses sur Dieu. Par notre intelligence, on peut comprendre ce que ça veut dire que Dieu est saint, Dieu est miséricordieux, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Vous voyez, ça c'est des choses qu'on peut comprendre par notre intelligence. On peut comprendre que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est des choses qu'on comprend par notre intelligence. Si on n'avait pas d'intelligence, on ne pourrait pas les comprendre. Toutes ces choses-là. On peut comprendre ce que ça veut dire « Dieu est saint »,« Dieu est amour », etc. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut comprendre par notre intelligence. Mais au fait, toutes ces choses-là, qu'on peut connaître sur Dieu ou certaines promesses de Dieu, ce n'est pas ça la connaissance que donne la foi. Parce que ça, ce que j'évoque là, ces connaissances intellectuelles, ce sont des connaissances au fait extérieures. D'accord ? Il n'y a pas besoin d'être croyant. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour dire des choses intelligentes sur Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas chrétiens et qui connaissent tout à fait bien la doctrine chrétienne et qui peuvent dire tout à fait plein de bonnes choses sur la doctrine chrétienne. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui sont intelligents, ce sont des gens qui ont étudié et qui peuvent tout à fait bien vous expliquer la théologie de la Trinité. D'accord ? Mais ça, c'est la connaissance par l'intelligence. Ce n'est pas la connaissance par la foi. La connaissance par la foi, c'est plus que ça. Ce n'est pas seulement connaître des choses sur Dieu, c'est connaître Dieu. Ce n'est pas avoir seulement une connaissance extérieure, mais c'est avoir une connaissance intime. C'est avoir une connaissance intérieure. C'est avoir une réelle conviction, forte, enracinée au plus profond de notre être. C'est ça, la connaissance par la foi. Et c'est ce que dit le texte dans Hébreux 11. Hein? La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère, c'est quoi ? C'est les promesses de Dieu. C'est toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est à ta mort, tu rentreras dans la présence de Dieu et tu vivras dans l'éternité avec lui. Voilà, ça c'est les choses qu'on espère. C'est des choses qu'on peut comprendre intellectuellement, mais ce n'est pas ça la connaissance par la foi. La connaissance par la foi, c'est avoir l'assurance de ces choses, c'est-à-dire se les approprier, arriver à une connaissance vraiment intérieure, qui ne soit pas seulement celle du professeur de théologie qui décrit les choses de l'extérieur, mais avoir cette connaissance de l'intérieur. La démonstration de celle qu'on ne voit pas, Dieu, personne ne le voit. Parce que Dieu n'a pas de corps, on ne peut pas voir Dieu. Mais en même temps, en tant que chrétien, la connaissance par la foi nous permet d'avoir la démonstration de la réalité de Dieu. Si on a la foi, on connaît Dieu avec certitude. On s'approprie cette connaissance de l'intérieur. On sait que Dieu existe. Pourquoi ? Parce que par la foi, on le connaît et on saisit sa réalité. C'est quelque chose qu'on trouve très souvent, cette distinction dans la Bible. Par exemple, si vous lisez l'évangile de Jean, vous verrez à beaucoup d'endroits qu'au fait, ce qui manque aux auditeurs du Christ, le Christ parle beaucoup dans l'évangile de Jean, il y a beaucoup de dialogues. D'accord ? Ce qui manque aux auditeurs du Christ, c'est justement cette connaissance par la foi. Le Christ dit dans l'évangile de Jean, il faut être né d'en haut pour justement réellement comprendre les réalités évoquer, comprendre pas seulement intellectuellement, mais les comprendre de l'intérieur. On voit ça aussi assez clairement, par exemple, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1. Vous savez que l'apôtre Paul, souvent au début de ses épîtres, il prie pour ceux qui lisent. quand vous lisez les épîtres de Paul, très souvent au début, vous avez une prière pour ses lecteurs. Et dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 1, versets 16 à 19, vous verrez, c'est tout à fait intéressant. Voilà ce que Paul dit. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la glorieuse richesse de son héritage au milieu des saints, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. » Paul prie quoi ? Paul prie que Dieu illumine les yeux du cœur de ses lecteurs. Ça veut dire quoi, illuminer les yeux du cœur ? Bien, ça veut dire justement de parvenir à cette connaissance intime, à cette connaissance intériorisée. Pas seulement cette connaissance extérieure, intellectuelle, théorique, mais de parvenir à cette connaissance assimilée, illuminée de l'intérieur par l'action du Saint-Esprit. Et c'est ça la connaissance que nous donne la foi. Tout à l'heure, on va prendre la Sainte Cène ensemble. C'est un moment important pour l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que la Sainte Cène, eh bien, on va connaître les choses par nos sens, c'est-à-dire qu'on va manger du pain, qui va avoir un goût, une texture, donc on va connaître ce pain par le biais de notre toucher, par le biais du goût, on va avoir une connaissance sensorielle du vin ou du jus de raisin également, on va avoir une connaissance intellectuelle, pourquoi ? Parce qu'on sait... si on a l'habitude de fréquenter les églises, que c'est un repas que Jésus a institué avant sa mort et qu'il a dit « prenez, buvez, ceci est mon sang ». Voilà, donc on a une connaissance intellectuelle de ça, une connaissance théologique. Et si on est en Christ, eh bien on va aussi avoir une connaissance par la foi de ce qu'on est en train de vivre par le moment de la Sainte Cène, c'est-à-dire qu'on va s'approprier les promesses de Dieu liées à ce moment de Sainte Cène. C'est-à-dire qu'on va s'approprier cette promesse de Dieu qui dit que je suis avec vous d'une manière très particulière au moment où l'Église prend la Sainte Cène. On va s'approprier la promesse de Dieu qui nous dit que ce sang-là a coulé pour toi, pour tes péchés. Et donc on va saisir ces choses-là. Donc vous voyez, ces niveaux de connaissance s'emboîtent les uns dans les autres, dans notre expérience chrétienne courante. On va connaître le pain par nos sens, on va avoir une connaissance théologique, intellectuelle de ce qui est en train de se passer avec la Sainte Cène, et puis on va avoir une connaissance intime par la foi qui va nous permettre de saisir vraiment la réalité de ce qui se passe. Et on peut tout à fait prendre la Sainte Cène dans les fêtes sans être croyant, mais on ne prendra pas vraiment la Sainte Cène dans sa plénitude. On pourra prendre la Sainte Cène juste en la connaissant de façon sensible, si on n'a aucune culture théologique et qu'on croit en rien, ou bien de façon sensible et intelligente, si on a une culture théologique mais qu'on n'a pas la foi. Mais la pleine réalité de la Cène, il faut avoir cette réalité de la connaissance par la foi. Voilà la foi comme connaissance. Maintenant, la foi, c'est pas seulement ça dans la Bible. La foi, c'est aussi une confiance. Parce qu'au fait, quand vous connaissez vraiment qui est Dieu et que vous connaissez vraiment quelles sont les promesses de Dieu, eh bien, tout naturellement, vous allez être enclin à faire confiance. Vous allez être enclin à faire confiance. Voilà ce que dit le catéchisme de Heidelberg. Je ne sais pas si vous connaissez le catéchisme de Heidelberg. Si vous ne le connaissez pas, c'est une lacune. C'est un très beau texte qui date de la Réforme et qui est très profond et très beau. Et voilà ce qu'elle dit. Voilà ce que dit ce catéchisme. Qu'est-ce qu'une vraie foi ? Qu'est-ce qu'une vraie foi ? Alors, le catéchisme commence par dire « Ce n'est pas seulement une connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole. » Vous voyez, la connaissance certaine par laquelle je tiens pour vrai tout ce que Dieu nous a révélé par sa parole, ça c'est la connaissance intellectuelle. C'est ce qu'on sait. Tout chrétien doit savoir des choses sur Dieu. Tout chrétien doit savoir des choses, quelles sont les promesses de Dieu, à quoi est-ce qu'il peut s'attendre et où est-ce qu'il va trouver tout ça dans sa parole. Voilà, ça c'est le premier volet. Le deuxième volet, mais c'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en moi. C'est pas moi qui me fabrique cette confiance. On ne peut pas se fabriquer tout seul une confiance. C'est l'Esprit Saint qui fabrique en moi. C'est aussi une confiance du cœur que l'Esprit Saint produit en moi par l'Évangile et qui m'assure que ce n'est pas seulement aux autres, mais aussi à moi que Dieu accorde la rémission des péchés, la justice et le bonheur éternel, et cela par pure grâce et par le seul mérite de Jésus-Christ. Donc voyez, la foi, ce n'est pas seulement une connaissance certaine, c'est aussi une confiance du cœur produite par l'Esprit Saint qui nous dit que ces promesses de Dieu ne sont pas seulement pour les autres, pas seulement pour mon voisin qui a l'air tellement plus beau et plus intelligent que moi, mais c'est également pour moi. Et c'est aussi ça la foi, où on saisit, on s'appuie là-dessus. Et ça, ça ressort très clairement de ce chapitre d'Hébreux 11. On va juste se promener un tout petit peu dans ce chapitre, à différents endroits pour voir cette dimension vraiment de la confiance. Si vous prenez par exemple au verset 7, dans Hébreux 11, au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, voyez, le divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, c'est quoi? C'est la foi comme connaissance. Dieu avertit Noé. Il donne des connaissances à Noé. Il donne à Noé de connaître ce qu'on ne voit pas encore. Dans X temps, il y aura un déluge. Donc Dieu se révèle et donne des connaissances à Noé. C'est la foi comme connaissance. Et là, juste après, on voit la foi comme confiance. Divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte. Noé est saisi d'une pieuse crainte. C'est-à-dire qu'on voit que cette connaissance qu'il acquiert, eh bien, a un impact sur sa vie intérieure. Il est saisi d'une pieuse crainte et il se repose là-dessus. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Et ça, j'anticipe sur le troisième point. Construisit une arche pour sauver sa famille. C'est-à-dire que Dieu lui donne des connaissances. Ensuite, il y a la confiance produite par l'Esprit Saint dans cette connaissance. Puis ça débouche sur quoi? Ça débouche sur une vie transformée. Voilà. Si on reprend l'exemple de la chaise, c'est extrêmement simple. Vous voyez une chaise par vos sens, votre intelligence vous permet d'identifier l'objet comme une chaise, ensuite vous décidez de faire confiance à cette chaise, et puis ensuite, étape 3, vous vous asseyez sur cette chaise, c'est-à-dire que vous vous engagez. S'il n'y a pas l'étape 2, vous n'allez pas vous asseoir sur la chaise. C'est-à-dire que si vous voyez que c'est une chaise, mais qu'elle a l'air terriblement branlante, ou que le placet est tout troué, etc., vous allez voir la chaise, vous allez identifier la chaise, vous allez dire « ceci est une chaise », par contre, vous n'allez pas lui faire confiance. Et puis, vous allez rester debout, parce que vous n'aurez pas envie de vous casser le dos en vous offrant une chute spectaculaire à partir d'une chaise trouée. D'accord ? Donc, vous voyez, cet élément de confiance est tout à fait important. Il ne suffit pas de connaître, il faut faire confiance. Et c'est seulement quand vous avez identifié votre chaise et que vous faites confiance que vous allez vous asseoir dessus. Avec Dieu, c'est la même chose. Dieu se révèle, il nous donne des connaissances sur lui, il nous donne des promesses. Et par son Esprit Saint, il produit en nous une réelle confiance qui fait qu'on va s'appuyer là-dessus. D'autres exemples, hein. On pourrait passer en revue tout ce chapitre de Hébreux 11, vous verrez que c'est vous faites partout, mais on va pas le faire. Si vous prenez le verset 11 avec Sarah, c'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de donner le jour à une descendance parce qu'elle tint pour fidèle celui qui a fait la promesse. Elle tint pour fidèle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle fait confiance. Elle n'a pas seulement la révélation de ce que lui dit Dieu, elle fait confiance. Verset 19, Abraham, son mari, même chose. Au moment de devoir sacrifier son fils Isaac, quelque chose de tout à fait épouvantable et horrifique pour lui, le fils unique, le fils de la promesse, imaginez ça, c'est affreux. Eh bien, au verset 19, il comptait que Dieu est puissant. Il comptait que Dieu est puissant. Il comptait que, c'est plus fort que, il avait la connaissance intellectuelle que Dieu est puissant. C'est pas seulement ça. Il avait cette connaissance intellectuelle que Dieu est puissant. Mais le texte nous dit qu'il avait plus que ça. Il avait cette connaissance confiante sur laquelle on s'appuie de tout son poids. Voilà pour la foi comme confiance. La foi comme connaissance, la foi comme confiance. Et puis enfin, troisième point, la foi comme obéissance. Vous voyez la chaise, vous identifiez la chaise. Vous vous dites, cette chaise est digne de confiance, elle a l'air solide, qu'est-ce que je fais? Je m'assieds dessus. C'est-à-dire que vous alignez votre comportement sur ce que vous savez. Et c'est quelque chose de tellement naturel qu'on n'y fait pas attention. Mais toute notre vie, on vit des choses comme ça. Vous êtes venu ici, vous avez pris l'ascenseur, vous avez identifié l'ascenseur, vous avez reconnu, ceci est un ascenseur qui va me permettre de monter 3 étages. Ensuite, vous avez décidé de faire confiance à l'ascenseur, c'est-à-dire que vous vous êtes dit qu'il n'allait pas tout à coup tomber ou bien vous n'alliez pas rester enfermé pendant tout le week-end dedans, etc. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris l'ascenseur. C'est quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait humain, tout à fait logique. Et au fait, c'est ce qu'on observe ici dans ce texte. C'est-à-dire que tous les héros de la foi, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont une connaissance de Dieu. Ils savent qui est Dieu. Ils savent quelles sont les promesses de Dieu. Ensuite, comme ils connaissent Dieu et que l'Esprit Saint œuvre en eux, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ils font confiance. Ils font confiance. Ils s'appuient dessus. Et puis enfin, comme ils connaissent et qu'ils font confiance, eh bien, tout naturellement, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils alignent leur vie sur ce qu'ils savent. Ils alignent leur vie sur ce qu'ils savent. Et c'est ce qu'on voit dans tous ces héros de la foi. Noé, une fois que Dieu lui a révélé au verset 7 ce qui va venir et ce qui n'est pas encore, et qu'il est saisi d'une pieuse crainte, qu'est-ce qu'il fait ? Il construit une arche. Chose complètement folle à vue humaine. Mais il s'appuie sur ce qu'il sait de Dieu. Abraham, la même chose. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Ça, c'est le verset 8. Même chose. Abraham sait des choses de Dieu parce que Dieu se révèle à lui. Il s'approprie de l'intérieur ces choses. Il fait confiance à ce qu'il sait. Puis qu'est-ce qu'il fait ? Il prend ses chameaux, ses moutons et toute sa maisonnée et il quitte une terre dans laquelle il était prospère, riche, pour aller on ne sait pas où. Il fait confiance. Il aligne sa vie sur ce qu'il sait. Même chose avec son fils Isaac. Il sait des choses sur Dieu. Il s'appuie sur ces choses-là et il aligne sa vie. Et nous avons là ici la plénitude de la foi au sens biblique, qui, vous voyez, à des années-lumière des scénarios que je vous ai présentés au début, avec une foi qui relève soit uniquement de l'expérience, le coup du grand saut dans le vide, tu verras, c'est génial. Non, on a une connaissance de Dieu. Ce n'est pas un saut dans le vide. On sait qui est Dieu. On a des connaissances. Ce serait insensé de faire un saut dans le vide. Personne ne fait des sauts dans le vide. D'accord ? On a des connaissances et on s'appuie là-dessus par l'action de l'Esprit Saint. Et ce n'est pas non plus uniquement une question de contenu intellectuel, de contenu objectif, savoir élaborer une théologie de la Trinité qui soit parfaite. Ce n'est pas ça non plus, parce qu'il y a aussi tout ce côté de confiance et d'expérience. Et au fait, la foi biblique est beaucoup plus complète que toutes ces versions un peu dégradées qu'on peut observer aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fait, par la foi, eh bien, tous ces hommes de Dieu plaisent à Dieu. Ils reçoivent un bon témoignage, ça je vous laisserai regarder tranquillement à la maison. Mais vous verrez, c'est comme un refrain dans Hébreux 11, que par la foi les gens croient, par la foi les gens font confiance, par la foi les gens alignent leur vie sur ce qu'ils croient, et puis ça, ça plaît à Dieu. Ça plaît à Dieu. Ils reçoivent un bon témoignage de Dieu. Abel fut déclaré juste. Enoch plaisait à Dieu. Verset 6, sans la foi, il est impossible de lui plaire, etc. etc. C'est comme un refrain qui revient constamment dans ce passage. Au fait, cette vie complètement réorientée, c'est ce qui plaît à Dieu. L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Corinthiens, deuxième épître, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire si quelqu'un a la foi, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Au fait, le fait d'avoir la foi au sens biblique du terme, ça change toute la vie. Ça change toute la vie. Ça transforme toute notre perception de la réalité et ça conduit à un réalignement de notre vie sur ce qu'on croit. Lorsque mon épouse était enceinte, on allait chez le gynécologue qui faisait généralement des échographies. Et c'était toujours des grands moments, les échographies, parce que vous aviez le gynécologue tout content qui était là, qui disait « Oh, regardez, c'est trop joli, il y a un petit pied, là, vous le voyez ?» Et moi, je voyais rien. On voyait une masse blanchâtre qui bougeait un peu avec le bruit du cœur qui faisait boulum, boulum. Et puis, mais en fait, je voyais rien. Puis après, oh, tout d'un coup, oh, vous avez vu le brin ? Non, moi je ne voyais pas. Lui, il voyait pourquoi ? Parce qu'il avait les connaissances, il avait appris à lire une échographie. Et lui, il voyait un bras, et lui, il voyait une jambe, mais moi je ne voyais pas de bras, et moi je ne voyais pas de jambe. Je voyais une espèce de masse informe qui bougeait, qui était tout à fait émouvante, mais s'il m'avait demandé c'est quoi ça, je n'aurais pas pu dire. Et donc vous voyez, le gynécologue avait un regard sur l'échographie qui n'était pas le même que le mien. Il voyait des choses que moi, je ne voyais pas. Le grand amateur de foot qui va voir un match, il voit des choses que le non-amateur de foot ne voit pas. Il ne voit pas le même spectacle. Et donc, il ne va pas apprécier les mêmes choses. Il ne va pas apprécier les mêmes choses. Il va dire, ouais, t'as vu ce geste super ? Et puis, il sera tout déçu parce qu'il dira ça à sa femme qui haussera les épaules et qui verra rien d'autre que 22 idiots qui courent après un ballon. Et ce sera une grande déception. Il ne voit pas la réalité de la même manière. Ben, avec la foi, c'est exactement la même chose. En tant que chrétien, on ne voit pas la même chose. Oui, bien sûr, on voit la même chose. Parce que l'épouse qui comprend rien au foot, elle voit la même chose. C'est-à-dire qu'elle voit les mêmes joueurs, elle voit le même ballon, elle voit le même terrain de foot, etc. Mais elle n'a pas les mêmes yeux pour voir ces choses-là. Et en tant que chrétien, on doit être conscient que si on a la foi, ben on a des yeux qui nous permettent de voir la réalité dans une autre perspective. Et cette perspective, ça change tout. Ça change tout. Ça change que on sait que le monde n'est pas le fruit d'un hasard absurde. On sait que nos vies ont un sens. On sait qu'on a été créé à l'image de Dieu dans un but précis. On sait que notre prochain, lui aussi, a été créé à l'image de Dieu et qu'on doit l'aimer comme nous-mêmes. Ça change toute notre perception de la réalité. On va voir le monde différemment et ça va avoir une incidence sur notre manière de vivre. C'est ça qui plaît à Dieu. C'est qu'avant, on voit le monde tel qu'on a envie de le voir. On voit le monde tel que notre être pécheur nous donne à le voir. Où on est au fait le propre Dieu de notre petit monde qu'on se fabrique. Avec la foi, on entre dans la juste perspective, dans la juste perception de la réalité. Et c'est ça qui plaît à Dieu. Comment répondre à cet enseignement biblique ? Que faire de tout ça ? La foi comme connaissance, la foi comme confiance, la foi comme obéissance, comme engagement. Alors je commencerai à m'adresser à vous si vous ne possédez pas cette foi. Si ce matin vous vous rendez compte en entendant ça que vous ne possédez pas cette foi. Eh bien l'enseignement biblique est assez clair. Voilà ce que dit le Christ. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvrira à celui qui frappe. Voilà ce que dit le Christ, et je ne peux rien dire de plus, c'est amplement suffisant. Si vous réalisez ce matin que vous n'avez pas cette foi, et que vous souhaitez l'avoir, demandez, et l'on vous donnera. Priez, allez voir les anciens, discutez avec eux, priez avec eux, et Dieu vous donnera cette foi. Si vous possédez cette foi, et que vous vous reconnaissez parfaitement, mais que vous vous reconnaissez quand même un petit peu dans ce que je viens de dire ce matin, commencez par remercier Dieu. Première chose à faire. L'apôtre Paul nous dit, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, surtout, n'allez pas penser que vous êtes plus malin ou que vous êtes plus doué que les autres, parce que vous avez cette foi et que les autres n'ont pas moyen de vivre sa vie chrétienne. Commencez par remercier Dieu. C'est un don que Dieu nous donne. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Et généralement, quand on reçoit un don, quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on fait ? On dit merci. Voilà. Donc, comme il a été dit tout à l'heure dans la présidence, réveillons-nous le matin et commençons par remercier Dieu. Ça, je pense que c'est la première chose à faire quand on a ce don de la foi. Ensuite, il faut faire tous nos efforts, nous dit la parole de Dieu. Vous voyez, c'est un peu un paradoxe, parce que d'un côté, c'est un don, mais de l'autre côté, il faut faire tous nos efforts. Ce n'est pas moi qui invente, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Écoutez, Pierre, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Voilà, ça c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Donc Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Faisant connaître Dieu en se révélant à nous. Puis un tout petit peu plus loin, Pierre dit quoi ? À cause de cela même, c'est-à-dire parce que Dieu nous a tout donné, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, etc. À cause de ça, parce que Dieu nous a tout donné, faites tous vos efforts. Ça ne va pas de soi. Tout ce que j'ai partagé avec vous ce matin, ce n'est pas quelque chose qui va de soi. Il faut faire des efforts. Il faut se rendre compte que la vie chrétienne, c'est pas être couché sur le dos, la bouche ouverte, en attendant que les choses passent ou qu'elles se fassent. Il faut faire des efforts. Ça va pas tout seul. Et ça me permet d'enchaîner sur la troisième conséquence au fait de tout ce que je viens de vous dire, c'est qu'il faut avoir une conscience lucide que tout ce que je viens de vous dire ce matin, ça représente un combat. Vous avez peut-être eu des moments en m'entendant où vous êtes dit « Ouais, il est bien gentil, mais tout ça c'est de la théorie. Dans la vraie vie, les choses ne se passent pas comme ça. Dans la vraie vie, les choses ne se passent pas comme ça. Il n'est pas si facile que ça d'avoir la foi connaissance. Il est encore moins facile d'avoir la foi comme confiance, et ça on l'expérimente tous, on sait tous plein de choses sur Dieu, du style « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ça, on le connaît ce verset. Mais ça, appliquer ces choses-là concrètement à notre vie, c'est une autre histoire. Et vous avez peut-être eu l'impression des fois que c'est un petit peu de la théorie. Et puis encore, plus difficile, aligner notre vie sur ce qu'on croit, ça c'est encore plus difficile. Donc vous voyez, il y a un niveau de difficulté qui va en crescendo dans ce que je vous ai dit. Pour vraiment le vivre, la foi connaissance, d'accord, il faut prendre du temps pour lire des livres, écouter des prédications, ça demande un effort réel, il ne faut pas se le cacher, surtout à une époque où tout ce qui relève de l'intelligence est généralement banni des églises. Ensuite, vous avez la foi comme confiance, ça c'est encore plus difficile de vraiment faire confiance en Dieu. Et puis après, la foi comme obéissance, où on aligne, c'est encore plus difficile. Et je crois qu'il faut être conscient que c'est un combat, et que la vie chrétienne est un combat, et que c'est un combat qui doit être mené quotidiennement dans une confiante humilité. Dans une confiante humilité. Pourquoi humilité ? Ben parce qu'on est conscient de nos faiblesses, on est conscient de nos imperfections, on est conscient de nos lacunes, et je pense que ça vous arrive quotidiennement de vous rendre compte que voilà, vous n'avez pas été à la hauteur de ce que vous auriez dû être. Et ça, je pense que c'est une expérience chrétienne qui est normale. C'est tout à fait normal, et donc c'est une leçon d'humilité constante pour chacun d'entre nous. Mais en même temps, cette humilité, elle n'a pas besoin d'être désespérée. Cette humilité, elle peut être confiante. Elle peut être confiante parce qu'on sait que Dieu nous tient dans sa main et on sait qu'il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Et par conséquent, on peut s'appuyer sur lui. On peut s'appuyer sur Dieu. Et que ce chemin qui nous appelle à parcourir, eh bien, on n'est pas appelé à le parcourir tout seul, mais on est appelé à le parcourir dans la communion au Christ, dans la communion aussi avec les frères et sœurs, et à cheminer tous ensemble sur ces sentiers de la foi. Cette réalité est quelque chose qui était déjà éprouvé par des héros bibliques. Le père d'un enfant qui venait d'être libéré par le Christ, première parole qu'il dit, le Christ vient de faire un miracle tout à fait étonnant pour un de ses fils, et il dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et je pense que c'est un petit peu l'expérience que nous faisons tous, à des degrés différents, mais qui caractérise chacune de nos vies chrétiennes. Et pour terminer ce message, j'aimerais lire avec vous ce qui vient tout à la fin du développement de Hébreux 11, donc de cette énumération, c'est le début du chapitre 12. Et je pense que là, ça donne vraiment cette tonalité, finalement, dans laquelle nous sommes appelés à vivre cette réalité de la foi comme connaissance, comme confiance et comme obéissance. Regardez Hébreux 12, les deux premiers versets. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. » Amen.